Nicolas Brognon de Romain Rolland, troisième partie. À ce point du discours, et comme nous choquions nos verres en l'honneur du gai bon sens français qui se rit de l'excès en tout, entre les deux s'assied le sage, d'où vient qu'il sied souvent par terre. Un grand bruit de portes fermées, de pas pesants dans l'escalier, de Jésus, de Joseph, d'Ave et de gros soupirs oppressés, nous annonça l'invasion de dame Héloïse Curé, comme on nommait la gouvernante, ou la curée. Elle soufflait en essuyant sa large face avec un coin de tablier et s'exclama « Holà, holà, au secours, monsieur le curé !»« Hé, grosse bête, qu'y a-t-il ? » demanda l'autre impatienté. « ils viennent, ce sont eux !»« Qui ? Ces chenilles qui s'en vont par les champs en procession ? Je te l'ai dit, ne parle plus de ces païens, mes paroissiens. Ils vous menacent. Je m'en moque. Et de quoi ? D'un procès devant l'official ? Allons-y, je suis prêt. Ah, mon monsieur, si ce n'était qu'un bon procès ! Qu'est-ce donc ? Parle. Ils sont là-bas, chez le grand pic, qui font des signes cabalistiques, des exorchismes, comme on dit, et qui chantent. Ça y est, mulot et hanneton, ça y est des chants, allez manger dans le verger et dans la cave du curé. » À ces mots, Chamaille bondit. « Ah, c'est maudit ! Dans mon verger, leur hanneton, et dans ma cave, ils m'assassinent ! Ils ne savent plus qu'inventer ! Ah, Seigneur, Saint-Simon, venez au secours de votre curé !» Nous tentâmes de le rassurer. Nous rions bien. « Riez, riez !» nous cria-t-il. « Si vous étiez à ma place, mes beaux esprits, vous ne ririez pas autant. Parbleu, je rirais aussi en votre peau. C'est bien commode. Mais je voudrais vous voir devant cette nouvelle, et préparant table, cellier, appartement pour recevoir ces garnements. Leur hanneton, c'est écœurant, et leur mulot, je n'en veux pas. Mais c'est à se casser la tête. » « Eh quoi ? » lui dis-je. « N'es-tu pas le curé ? Que crains-tu ? Désexorcise-toi ! N'en sais-tu pas 20 fois plus que tes paroissiens ? N'es-tu pas plus fort qu'eux ? Eh, je n'en sais rien. Le grand pic est très malin. Ah, mes amis ! Ah, mes amis ! Quelle nouvelle ! Ah, les bandits ! J'étais si bien, si confiant ! Ah, rien n'est sûr. Dieu seul est grand. Que puis-je faire ? Je suis pris, ils me tiennent. Mon Héloïse, va, cours leur dire qu'ils s'arrêtent. Je viens, il le faut bien. Ah, les gredins, quand, à mon tour, sur leur grabat, je les tiendrai. En attendant, fiat voluntas, c'est moi qui passe par leurs 36 volontés. Allons, il faut boire la coupe, je la boirai. J'en ai bu d'autres. Il se leva, nous demandâmes. Où vas-tu donc ? « À la croisade, répondit-il, des hannetons. » Chapitre 4. Le flâneur ou une journée de printemps. Avril. Avril, gracile fille du printemps, pucelette maigrelette, aux yeux charmants, je vois fleurir tes seins menus sur la branche d'abricotier, la branche blanche dont les bourgeons pointus, rosés, sont caressés par le soleil du frais matin à ma fenêtre, en mon jardin. Quelle belle matinée ! Quelle félicité de penser qu'on verra, qu'on voit cette journée ! Je me lève, j'étire mes vieux bras où je sens la bonne courbature du travail acharné. Les 15 jours derniers, mes apprentis et moi, afin de rattraper les chômages forcés, nous avons fait voler les copeaux et chanter le bois sous nos rabots. Notre faim de travail est malheureusement plus vorace que n'est l'appétit du client. Eh, l'on n'achète guère, on se presse encore moins de payer ce qu'on a commandé. Les bourses sont saignées à blanc. N'y a plus de sang au fond des escarcelles. Mais il y en a toujours dans nos bras et nos champs. La terre est bonne, celle dont je suis fait, et celle où je vis, c'est la même. Ara, ora, et labora. roi tu seras. Ils sont tous rois, les clament six soit, ou le seront, oui, par ma foi. Car j'entends, dès ce matin, bruire les aubes des moulins, grincer le soufflet de la forge, teinter la danse sur l'enclume des marteaux des maréchaux, le couperet sur le tranchoir arraché les os, les chevaux à l'abreuvoir renifler l'eau, le savetier qui chante et cloue, les roues des chars sur le chemin, et les sabots pati-patoche, les fouets claquants, les bavardages des passants, les voix, les cloches, le souffle enfin de la ville travaillant, qui fait « Ah !» Pater noster, nous pétrissons, panem nostrum quotidien, en attendant que tu le donnes, c'est plus prudent. Et sur ma tête, le beau ciel du bleu printemps, où le vent passe, pourchassant les nuages blancs, le soleil chaud et l'air frisqué. Et l'on dirait, c'est la jeunesse qui renaît. Elle revient, à tire-d'aile, du fond des temps, refaire son nid d'hirondelle sous l'auvent de mon vieux cœur qui l'attend. La belle absente, comme on l'aime à son retour, bien plus, bien mieux qu'au premier jour. À ce moment, j'entends grincer la girouette sur le toit, et ma vieille, dont la voix aigre criait je ne sais quoi, je ne sais pas qui, peut-être à moi, n'écoutez pas. Mais la jeunesse effarouchée était partie. Où diable soit la girouette ! Elle, enragée, je dis ma vieille, elle descend me corner dans le tympan son chant. « Que fais-tu là, les bras ballants, bâillant au nu, maudit feignant, la gueule ouverte comme le trou d'une citerne ? Tu fais peur aux oiseaux du ciel. Qu'attends-tu ? Qu'une alouette toute rôtie tombe dedans ? Ou bien le pleur d'une hirondelle ? Pendant ce temps, moi, je me tue, je souffle, je sue, je m'évertue, je peine comme un vieux cheval pour servir cet animal. Va, faible femme, c'est ton lot. Eh bien non, non, car le Très-Haut n'a pas dit que nous aurions toute la peine et que Adam irait de ci, de là, flânant et les mains derrière le dos. Je veux qu'il souffre aussi, et je veux qu'il s'ennuie. Si c'était autrement, s'il s'amusait, le gueux, il y aurait de quoi désespérer de Dieu. Par bonheur, je suis là, moi, afin d'accomplir ses saintes volontés. As-tu fini de rire ? Au travail, si tu veux faire bouillir le pot. Voyez s'il m'écoute. Grouilleras-tu bientôt ? Avec un doux sourire, je dis « Mais oui, ma belle, ce serait un péché de rester au logis par ce matin joli. » Je rentre à l'atelier, je crie aux apprentis. « Il me faut, mes amis, une pièce de bois, liant, doux et serré. Je vais voir chez Rioux s'il a dans l'entrepôt quelques beaux madriers. Hop, Cagna, robinet, allons faire notre choix. » Eux et moi, nous sortons. Et ma vieille criait. Je dis « Chante toujours !» Mais ce dernier conseil n'était pas nécessaire. Quelle musique ! Je sifflais pour renforcer le couplet. Le bon Cagna disait « Eh, maîtresse, on croirait qu'on s'en va en voyage. Dans un petit quart d'heure, on sera de retour. »« Avec ce brigand-là » dit-elle. « Sait-on jamais ?» 9 heures alors sonnaient. Nous allions en béant, le trajet n'est pas long, mais au pont de Beuvron, on s'arrête en passant. Il faut bien s'informer de la santé des gens. Pour saluer, fêtu, gadin et trinqué, dit beaux gens, qui commencent leur journée, assis sur la chaussée, à regarder l'eau couler. On devise un moment de la pluie et du beau temps. Puis nous nous remettons en route sagement. On est homme de conscience, on va par le plus droit, on ne cause avec personne. Il est vrai que sur le chemin, nous ne rencontrons personne. Seulement, on est sensible aux beautés de la nature. On admire le ciel, les jeunes pousses du printemps, dans les fossés des murs un pommier fleurissant. On regarde l'hirondelle, on fait halte, on discute la direction du vent. À mi-chemin, je songe que je n'ai d'aujourd'hui embrassé ma Glaudie. Je dis « Allez toujours, je fais les deux chemins. Chez Rioux, je vous rejoins. » Quand j'arrivais, Martine, ma fille, était en train de laver sa boutique à grande eau, sans cesser de jaser, de jaser, de jaser, avec l'un, avec l'autre, son mari, ses garçons, l'apprenti, et Glodie, et deux ou trois commères en plus du voisinage, avec qui elle riait à rate que veux-tu, sans cesser de jaser, de jaser, de jaser. Et quand elle eut fini, non de jaser, mais de laver, elle sortit et vida le seau dans la rue à toute volée. Moi, je m'étais arrêté quelques pas avant d'entrer, afin de l'admirer. Elle me réjouit les yeux et le cœur, quel morceau! Et je reçus la moitié du seau sur les mollets. Elle n'en rit que mieux, mais moi, bien plus fort qu'elle. Ah, la belle Gauloise qui me riait au nez avec ses noirs cheveux qui lui mangent le front, ses forts sourcils, ses yeux qui brûlent et ses lèvres encore plus, rouges comme des tisons et gonflées comme des prunes. Elle allait, gorge nue et bras nus, gaillardement troussée. Elle dit « À la bonne heure, au moins, as-tu tout pris ?» Je répondis « Il ne s'en faut guère. » Mais je ne me soucie de l'eau, pourvu que je ne sois pas obligée à la boire. « Entre !» dit-elle. « Noé du déluge sauvé, Noé le vigneron. » J'entre, je vis Glodie, assise en court jupon, sous le comptoir tapis. « Bonjour, petit mitron !»« Je parie, dit Martine, que je sais ce qui t'a fait sortir si tôt de la maison. « Tu paries à coup sûr ?» « Tu connais la raison, tu as sucé son téton. »« C'est la mère ?»« Pardine !»« Que les hommes sont poltrons !» Florimond, qui entrait, juste reçut le paquet. Il prit un air piqué. Je lui dis « C'est pour moi, ne t'offense pas, mon gars !»« Il y a part pour deux, » dit-elle. « Ne sois pas si glouton !» L'autre gardait toujours sa dignité froissée. « Il est un vrai bourgeois. Il n'a jamais admis qu'on pût rire de lui. Aussi, quand il nous voit tous deux, Martine et moi, il se méfie, il épie d'un regard soupçonneux les mots qui vont sortir de nos bouches qui rient. Pauvres innocents, quelle malice on nous prête !» Je dis ingénument, « Tu plaisantes, Martine. Je sais que Florimond est maître en sa maison. » Il ne se laisse pas comme moi damer le pion. D'ailleurs, sa Florimonde est douce, docile, discrète, n'a pas de volonté, obéit sans parler. La bonne fille, elle tient de moi, qui ai toujours été un pauvre homme timide, soumis et écrasé. As-tu bientôt fini de te moquer du monde ? Fit Martine à genoux qui frottait de nouveau. Et je te frotte, et je te frotte. Les carreaux, les croisées, d'une joie enragée. Et tout en travaillant, moi, je la regardais faire. Nous dégoisions ensemble de bons et drus propos. Au fond du magasin, que Martine remplissait de son mouvement, de son verbe, de sa robuste vie, se tenait rancogné Florimond, renfrogné, pincé, collémonté. Il n'est jamais à l'aise dans notre société. Les mots verts les farouches et les saines gauloiseries. Il choque sa dignité. Et puis, il ne comprend pas que l'on rit par santé. Il est petiot, palot, maigriot et morose. Il aime à se plaindre de tout. Il ne trouve rien de bien, sans doute, parce qu'il ne voit que lui. Une serviette enroulée autour de son cou de poulet, il avait l'air inquiet et remuait à droite, à gauche, les prunelles. Enfin, il dit « On est à tous les vents ici, comme sur une tour. Toutes les fenêtres sont ouvertes. » Martine, sans l'interrompre, dit « Eh, quoi, j'étouffe !» Quelques minutes, Floribond tenta de tenir bon. Il soufflait, à vrai dire, un beau petit vent frais. Et partit furibond. La gaillarde accroupie leva la tête et dit, avec sa bonne humeur affectueuse et railleuse, « Il va se remettre au four !» Narquois, je demandai si elle s'entendait toujours avec son pâtissier. Elle se garda bien de me dire que non, Ah, la sacrée Mathine, lorsqu'elle s'est trompée, on la couperait en quatre plutôt qu'elle avouât. Et pourquoi donc, dit-elle, ne m'entendrais-je pas? Il est fort à mon goût. Oïda, j'en mangerai, mais pour ta grande bouche, dis-je, un petit pâté est bien vite avalé. De ce qu'on a, dit-elle, il faut se contenter. C'est bien dit. Malgré tout, si j'étais à la place du petit pâté, je serais, je l'avoue, à moitié rassurée. Pourquoi? N'a rien à redouter, car je suis loyale en marché. Mais qu'il le soit pareillement, car sinon, le garnement, s'il me trompe, est prévenu. Le jour ne passera point qu'il ne soit coquericocu. Chacun son bien, à lui le sien, à moi le mien. Donc, qu'il fasse son devoir. Tout son devoir. Dame, il faudrait un peu voir qu'il se plaignît que la pucelle fût trop belle. Ah, diablesse, je ne m'abuse, c'est toi qui répondis à la buse, qui rapportais l'ordre du ciel. Je connais plus d'un busard, dit-elle, mais sans plume. Duquel veux-tu parler? Connais-tu pas, dis-je, l'histoire de la buse que des commères envoyèrent à notre père pour demander que les marmots, à peine éclos, pussent trotter sur leurs deux jambes? Le bon Dieu dit: je le veux bien. Il est galant avec les dames. Je ne demande en échange rien qu'une petite condition à mes aimables paroissiennes, que désormais, sous l'édredon, femmes, filles et fillettes couchent seulettes. La buse emporta, fidèle, le message sous son aile, et je n'étais point là le jour qu'il arriva, mais je sais que le messager en entendit le bel. Martine s'arrêta, sur les talons assise, de frotter pour pousser de grands éclats de rire, et puis me bouscula en criant: vieux bavard, plus qu'un pot à moutarde, bavard, baveux, bavant, va-t'en de là, va-t'en, conteur de balivernes, à quoi es-tu bon, dis, faire perdre le temps, ça déguerpit. Tiens, emmène-moi aussi ce petit chien sans queue qui traîne dans mes jambes, ta Glaudy. Oui, qui vient de se faire chasser encore du fournil et de fourrer ses pattes, je gage, dans la pâte. Elle en a sur le nez. Ouste, filez tous deux, laissez-nous marmouser, laissez-nous travailler ou je prends mon balai. Elle nous mit dehors. Nous partîmes tous deux, bien contents. Nous allâmes ensemble chez Rioux. Mais nous nous arrêtâmes un peu au bord de l'Yonne. Nous regardions pêcher, nous donnions des conseils. Et nous avions grand joie quand plongeait le bouchon, ou que du vert miroir la blette bondissait. Mais Glaudy, en voyant à l'hameçon le vert qui se tordait de rire, me dit d'un petit air dégoûté: père grand, il a mal, il va être mangé. Eh, ma mignonne, dis-je, sans doute. Être mangé, c'est un petit désagrément, et il n'y faut pas penser. Pense plutôt à qui le mange, au beau poisson. Il dit: c'est bon. Mais si c'était toi pourtant que l'on mange, père grand? Eh bien, je le dirais aussi. Je suis Tibon, le requin. Ah, quelle chance il a, le gaillard qui me mange. Voilà, ma fille, voilà comment père grand est. Toujours content. Mangeur, manger. Il n'est rien de tel que d'arranger la chose dans sa cervelle. Un bourguignon trouve tout bon. En devisant ainsi, déjà nous nous trouvâmes, il n'était pas 11 heures, arrivés chez Rioux sans y avoir pensé. Cagna et Robinet m'attendaient, mais en paix, sur la berge vautrée. Et Binet, qui avait pris ses précautions et sa canne à pêcher, taquinait le goujon. J'entrai dans le chantier. À partir du moment où je suis au milieu des beaux arbres couchés, dévêtus et tout nus, et que la bonne odeur de sciure me monte au nez, dame, j'avoue, le temps et l'eau ont pu couler. Je ne puis me lasser de leur tâter les cuisses. J'aime un arbre plus qu'une femme. Chacun a sa folie. J'ai beau savoir celui que je veux et prendrai. Si j'étais chez le grand Turc et que je visse en un marché celle que j'aime parmi 20 belles filles nues, croyez-vous que m'empêcherait mon amour pour mamie de savourer de l'œil en passant les appâts du reste du troupeau? Je ne suis pas si sot. Pourquoi Dieu m'aurait-il donné des yeux avides de la beauté si, quand elle apparaît, je devais les fermer? Non, les miens sont ouverts comme des portes cochères. Tout y entre, rien ne se perd. Et comme, vieux finaud, je sais voir sous la peau des femelles rusées leurs désirs, leurs malices et leurs fourbes pensées, ainsi sous l'écorce rude ou lisse de mes arbres, je sais lire l'âme enclose qui sortira de l'œuf, si je veux le couver. En attendant que je veuille, Kania, qui s'impatiente, c'est un aval tout cru, il n'y a que nous les vieux qui sachions savourer, converse à coups de gueule avec quelques flotteurs qui, de l'autre côté de Lyon, vont flânant ou font le pied de grue sur le pont de Béhan. Car, dans les deux faubourgs, si les oiseaux diffèrent, leur coutume est la même. Perchés pendant le jour, les fesses incrustées sur le rebord des ponts et se rincer le bec dans un voisin bouchon. La conversation, comme c'est l'habitude, entre fils de Beuvron et fils de Bethléem, consiste en quolibets. Ces messieurs de Judée nous traitent de paysans, d'escargots de Bourgogne et de croque-fumiers. Et nous, nous répliquons à leurs aménités en les nommant guernouilles et gueules de brochet. Je dis « nous », car ne puis, quand j'entends chanter les litanies, me dispenser de dire mon ora pro nobis. C'est pour être poli. À qui vous parle? On doit répondre. Après que nous eûmes honnêtement échangé quelques propos jolis, voilà-t-il pas que sonne l'Angélus de midi? J'en sursaute, et Bobby. Oui, le temps, oui, mais ton sablier fuit. Je pris premièrement nos bons flotteurs d'aider Kania et Robinet à charger ma charrette, et de la charrier, Secundo, à Beuvron avec le bois que j'ai choisi. Il crie beaucoup. « Sacré brognon, tu ne te gênes pas !» Il crie beaucoup, mais ils le font. Ils m'aiment, au fond. Nous revînmes au galop. Sur le pas des boutiques, admirant notre zèle, on nous regardait passer. Mais quand mon attelage arriva sur le pont de Beuvron et qu'on trouva, fidèles, les trois autres moineaux, fêtus, gadins, trinqués, qui voyaient couler l'eau, les jambes s'arrêtèrent et les langues, presto, se remirent en marche. Les uns méprisaient les autres parce qu'ils faisaient quelque chose, les autres méprisaient les uns parce qu'ils ne faisaient rien. Tout le répertoire des chanteurs y passa. Sur la borne du coin, moi, je m'étais assis et j'attendais la fin pour décerner les prix. Lorsqu'une voix me crie à l'oreille « Brigand, te voilà revenu ? Enfin, me diras-tu comment, depuis 9 heures, de Beuvron à Béhan, tu as passé le temps ? Le feignant ! Quel malheur ! Quand serais-tu rentré si je ne t'avais pris ? Au logis, scélérat, mon dîner est brûlé. » Je dis « Le prix, tu l'as. » Mes amis, vous aurez beau faire, pour ce qui est du chant auprès de celle-là, vous êtes de petits enfants. Mon éloge ne fit que la rendre plus vaine. Elle nous régala encore d'un morceau. Nous criâmes « Bravo ! Et maintenant rentrons. Va devant, je te suis. » Ma femme rentrait donc en tenant par la main ma Glaudie et suivie par les deux apprentis. Docile, mais sans hâte, j'allais en faire autant quand, de la ville haute, un bruit joyeux de voix, des sonneries de cors et le gai carillon de la tour Saint-Martin me firent, vieux flaireur, renifler l'air en quête d'un spectacle nouveau. C'était le mariage de monsieur Damasie avec mademoiselle Lucrèce de Champeau, fille du receveur des tailles et taillons. Pour voir entrer la noce, les voilà tous qui prennent leurs jambes à leur cou et grimpent 4 à 4 vers la place du château. Vous pensez si je fus le dernier à courir? Ce sont là des aubaines qu'on n'a point tous les jours. Seul Trinquet, Égadin et Fétu, les flâneurs, ne daignèrent lever leur derrière vissée au bord de la rivière, disant que ce n'était à eux, gens du faubourg, d'aller faire visite aux bourgeois de la tour. Certes, j'aime l'orgueil, et l'amour-propre est beau, mais lui sacrifier mon divertissement, serviteur, mon amour, ta façon de m'aimer vaut celle du curé qui me fouettait gamin, disait-il, pour mon bien. Bien que j'eusse avalé d'un seul trait l'escalier de 36 degrés qui monte à Saint-Martin, j'arrivais, quel malheur, sur la place trop tard pour voir la noce entrer. Fallut donc, c'était de toute nécessité, que j'attendisse qu'elle sortît. Mais ces sacrés curés n'en ont jamais assez de s'entendre chanter. Pour occuper le temps, je parvins à entrer, à grand sueur, dans l'église, en foulant gentiment les bedons complaisants et les coussins charnus. Mais je me trouvai pris, à l'entrée du parvis, sous l'édredon humain, ainsi que dans un lit, bien au chaud, sous la plume. N'eût été l'endroit saint, j'avoue que j'aurais eu quelques pensées folâtres. Mais il faut être grave, il y a temps et lieu. Et quand je dois, je puis l'être comme un baudet. Mais il arrive aussi que le bout de l'oreille reparaît quelquefois et que le baudet braie. Il arriva ce jour. Car tandis que, dévot et discret, je suivais, en bâillant pour mieux voir, le joyeux sacrifice de la chaste Lucrèce à monsieur Damasie, 4 trompes de chasse, par Saint-Hubert, sonnèrent, accompagnant l'office en l'honneur du chasseur. La meute seule manquait. On le regrettait bien. Moi, j'avalai mon rire, et naturellement, je ne pus m'empêcher de siffler. Mais tout bas, la fanfare. Seulement, lorsque vint le moment fatidique où, à la question du curé curieux, la mariée répond « oui », et que gaillardement les joues gonflées sonnèrent la prise, c'en fut trop, je criai « Halali !» Vous pensez si l'on rit. Mais le Suisse arriva en fronçant le sourcil. Je me fis tout petit, et me glissant le long des croupes, je sortis. Sur la place, je me trouvai. La compagnie n'y manquait point. Tous, comme moi, hommes de bien, sachant user des yeux pour voir, des oreilles pour croire et boire ce qu'ont happé les autres yeux, et de la langue pour compter ce qu'on n'est pas forcé d'avoir vu pour en parler. Dieu sait si je m'en suis donné. Pour beau mentir, n'est pas besoin venir de loin. Aussi, le temps passa très vite, pour moi du moins, jusqu'au moment où se rouvrit la grande porte de l'église au bruit des orgues. Parut la chasse. Glorieux, marchait en tête l'Amasie, tenant au bras la bête prise, qui roulait ses beaux yeux de biche à droite, à gauche, en minaudant. J'aime mieux n'être chargé de la garder, la belle enfant. À qui la débobinera, donnera du fil à retordre? Qui prend la bête, il prend les cornes. Mais je n'en vis pas davantage de la chasse et de la curée, du piqueur et de la piquée, et ne saurais même décrire. Ce n'est pas pour m'en vanter, la couleur des habits du sire et la robe de la mariée. Car juste à ce moment, nos esprits furent pris et notre attention par la grave question de l'ordre et de la marche et de la préséance de messieurs du cortège. Déjà, me conta-t-on, quand ils étaient entrés, ah, que n'étais-je là, le juge et procureur de la châtellenie et monsieur l'échevin, maire en titre d'office, ainsi que 2 béliers, au seuil, s'étaient heurtés. Mais le maire, plus gros, plus fort, avait passé. S'agissait de savoir à présent qui des deux sortirait le premier et montrerait son nez sur le sacré parvis. Nous faisions des paris, mais il ne sortait rien. Comme un serpent coupé, la tête de la noce poursuivait son chemin, le corps ne suivait point. Enfin, nous rapprochant de l'église, nous vîmes, dedans, près de l'entrée, de chacun des côtés, nos animaux furieux, dont chacun empêchait le rival de passer. Comme dans le Saint-Lieu, ils n'osaient pas crier. On les voyait remuer le nez et les babines, ouvrir des yeux énormes, faire le dos en boule, froncer le front, souffler, gonfler les joues, le tout sans qu'il sortît un son. Nous nous tenions les côtes. Et tout en pariant et riant, nous aussi, nous avions pris parti. Les hommes d'âge, pour le juge, représentant du seigneur duc, qui voudrait le respect pour soi, le prêche aux autres. Les jeunes coqs, pour notre mère, champion de nos libertés. Moi, j'étais pour celui des deux qui l'autre rosserait le mieux. Et l'on criait pour exciter chacun le sien. Vas-y, monsieur Grasset, mords-lui la crête, mon spéto. Ça, ça, rabat-lui le caquet. Aïe donc, hardi, bourriquet. Mais ces rossards se contentaient de se cracher leur rage au nez sans s'empoigner, par peur sans doute de gâter leurs beaux effets. À ce compte, la discussion y risquait de s'éterniser, car n'était pas à craindre que le bec leur gelât, sans monsieur le curé, inquiet d'arriver en retard à dîner. Il dit « Mes chers enfants, le bon Dieu vous entend, le repas vous attend. Ne faut en aucun cas faire attendre un repas, faire entendre au Seigneur notre mauvaise humeur en son temple. Lavons le linge à la maison. » S'il ne le dit du moins, car je n'entendais rien, ce dut être le sens. Car je vis à la fin que ses deux grosses mains empoignaient par la nuque et rapprochaient leurs mufles pour un baiser de paix. Après quoi, ils sortirent, mais sur la même ligne, ainsi que deux piliers encadrant au milieu le ventre du curé. Au lieu d'un mètre, trois. À dispute de mètres, peuple ne perd jamais. Ils étaient tous passés et rentrés au château, pour manger le dîner qu'ils avaient bien gagné. Nous restions, grosses bêtes, abaillées sur la place, autour de la marmite que nous ne voyions pas, comme pour avaler les odeurs du repas. Pour mieux me contenter, me fit dire les plats. Nous étions trois gourmands, Monstripé, Baudequin et Brognon, si présents, qui nous regardions en riant à chaque mets qu'on nommait. Et nous nous donnions du coude dans les côtes. Nous approuvions ce plat, nous discutions cet autre. On eût pu faire mieux si l'on eût consulté des gens d'expérience, comme nous. Mais enfin, ni faute d'orthographe, ni péché capital. Et le dîner, en somme, était fort honorable. À propos d'un civet, chacun dit sa recette, et ceux qui écoutaient ajoutèrent leurs mots. Mais là-dessus, bientôt, un débat éclata. Ces sujets sont brûlants. Faut être un méchant homme pour pouvoir en parler de cœur et de sang-froid. Il fut surtout très vif entre Dame Périne et la Jacotte, qui sont rivales et font les grands dîners en ville. Chacune a son parti, chaque parti prétend éclipser l'autre, à table. Ce sont de beaux tournois. Dans nos villes, les bons repas, ce sont les joutes des bourgeois. Mais malgré que je sois friand des beaux débats, rien ne m'est fatigant comme d'ouïr conter les prouesses des autres, quand moi je n'agis point. Et je ne suis pas homme à me nourrir longtemps du jus de ma pensée et de l'ombre des plats que je ne mange pas. C'est pourquoi je fus aise quand Montripé me dit, le pauvre aussi souffrait, à parler de cuisine trop longtemps, on devient, Brognon, comme un amant qui parle trop d'amour. Je n'en peux plus. Oh là, je suis dans un état à périr, mon ami. J'arde, je me consume, et mes entrailles fument. Allons les arroser et nourrir l'animal qui me ronge le ventre. Nous en viendrons à bout, dis-je. Compte sur moi. Contre la maladie de la faim, la médecine la meilleure est de manger, dit un ancien. Nous allâmes ensemble au coin de la Grand-Rue, à l'hôtel des Écus de France et du Dauphin. Car, de rentrer chez nous à 2 heures passées, nul de nous n'y pensait. Tripet eut, comme moi, redouté d'y trouver la soupe froide et la femme bouillante. C'était jour de marché, la salle était bondée. Mais si, quand on est seul à table, bien à l'aise, on est mieux pour manger, quand on est bien serré par de bons compagnons, on mange mieux. Ainsi, tout est toujours très bien. Pendant un long moment, nous cessâmes tous deux de parler, si ce n'est in petto, c'est-à-dire du cœur et des mâchoires. Un petit salé au chou, qui rose et doux embaumait et fondait. Dessus, rouge chopine, pour éclairer la bruine que j'avais sur les yeux. Car manger et non boire, comme disent nos vieux, c'est aveugler, non voir. Après quoi, la vue claire et le gosier lavé, je pus recommencer à bien considérer les hommes et la vie, qui paraissent plus beaux après qu'on a mangé. À la table voisine, un curé des environs avait pour vis-à-vis une vieille fermière qui lui faisait le dos rond. Elle s'inclinait, parlait en renfonçant la tête dedans sa carapace, la tordant de côté et doucereusement levant vers lui sa face, comme à la confession. Et le curé, de même, l'écoutait de profil, affable, et, sans l'entendre, à chaque révérence répondait poliment par une révérence, sans perdre une goulée, et semblait dire « Allez, ma fille, absolvoté, tous vos péchés vous sont remis, car Dieu est bon. J'ai bien dîné, car Dieu est bon, et ce boudin noir est très bon. » Un peu plus loin, notre notaire, maître Pierre de Lavaux, qui traitait un de ses confrères, parlait d'écus, de la vertu, d'argent, de politique, de contrat, de république romaine. Il est républicain en vers latin, mais dans la vie, prudent bourgeois, il est bon serviteur du roi. Puis, au fond, mon œil vagabond dénicha Perrin le Gueux, en biaude bleu, raide empesée, Perrin de Corvol l'orgueilleux, dont le regard au même instant, se rencontrant avec le mien, il s'exclama, il se leva et m'appela. Je jurai qu'il m'avait vu dès le début, mais le matois se tenait coi, car il me doit deux armoires en beau noyer depuis 2 ans que j'ai taillé. Il vint à moi, m'offrit un verre. « Tout mon cœur vous salue !» M'en offrit 2. « Pour marcher droit, sur les 2 jambes, marcher l'on doit. » Me proposa de prendre part à son repas. Il espérait qu'ayant dîné, je dirais non. Je l'attrapai, car je dis oui. Sur ma créance, autant de prix. Je recommençai donc, mais cette fois plus calme, posément, n'ayant plus à craindre la famine. Peu à peu, les dîneurs grossiers, les gens pressés qui ne savent manger, pareils aux animaux, afin que de se nourrir, avaient vidé les lieux. Et il ne restait plus que les honnêtes gens, gens d'âge et de talent, qui savent ce que vaut le beau, le bien, le bon, et pour qui un bon plat est une bonne action. La porte était ouverte, l'air et le soleil entraient, et 3 poulettes noires, allongeant leur cou raide pour piquer les miettes sous la table, et les pattes d'un vieux chien qui dormait, et les jacassements des femmes dans la rue, le cri du vitrier, et « Ah, mon beau poisson !» et le rugissement d'un âne comme un lion. Sur la place poudreuse, on voyait 2 bœufs blancs, attelés à un char, et, couchés, immobiles, leurs jambes repliées sur leurs beaux flancs luisants et la bave au menton, mâchonnant leur écume avec mansuétude. Des pigeons sur le toit, au soleil, roucoulaient. J'aurais bien fait comme eux, et je crois que nous tous, tant nous nous sentions aises, si l'on nous eût passé la main le long du dos, nous eussions fait ronron. La conversation s'établit entre tous, de table à table, tous unis, tous amis, tous frères. Le curé, le queue, le notaire, son partenaire, et l'hôtelière, au nom si doux. C'est Baise-la, le nom promet, à la tenue et au-delà. Pour mieux causer, je m'en allais de l'un à l'autre, m'asseyant ici, puis là. On parla de politique. pour que le bonheur soit complet, après souper, il ne déplaît de songer au malheur des temps. Tous nos messieurs se lamentaient de la misère, de la cherté, du peu d'affaires, de la ruine de notre France, de notre race en décadence, des gouvernants, des intrigants. Mais, prudemment, ils ne nommaient aucun des gens. Les grands ont des oreilles grandes comme eux. On ne sait pas si l'on n'en va pas à tout moment voir passer un bout sous la porte. Pourtant, la vérité, en bonne bourguignonne, étant au fond du muide, nos amis se risquèrent peu à peu de crier contre ceux de nos maîtres qui étaient le plus loin. Surtout, ils s'accordèrent contre les Italiens. Conchine, la vermine que la grosse dondon de Florence, la reine, apporta dans ses jupons. Si vous trouvez deux chiens qui rongent votre rau, dont l'un est étranger, dont le second est vôtre, vous chassez celui-ci, mais vous assommez l'autre. Par esprit de justice, par contradiction, je dis qu'il ne fallait châtier un seul chien, mais tous les deux. Qu'à ouïr les gens, il eût semblé qu'il ne fût de mal en France qu'italien, que grâce à Dieu nous ne manquions ni d'autres mots ni de coquins. À quoi tous, d'une seule voix, répondirent qu'un coquin italien en vaut trois, et que trois Italiens honnêtes ne valent point le tiers d'un honnête François. Je répliquai qu'ici ou là, où sont les hommes, ce sont les mêmes animaux, et qu'une bête en vaut une autre, qu'un bon homme, d'où qu'il soit, est bon à voir et à avoir, et quand je l'aime bien, même italien. Là-dessus, ils me tombèrent tous sur le dos, raillant, disant qu'on connaissait mon goût et me nommant vieux fou, Brognon bouge toujours, le pérégrin, l'errant, Brognon frotteur de route. C'est vrai que dans le temps, j'en ai usé beaucoup. Lorsque notre bon duc, le père de celui d'aujourd'hui, m'envoya à Mantoue et à Albisola afin d'étudier les émaux, les faïences et les industries d'art, que depuis nous plantâmes dans la terre de chez nous, je n'ai pas ménagé les routes ni la semelle de mes pieds. Tout le trajet de Saint-Martin à Saint-André-le-Mantouan, je l'ai fait, le bâton au poing, sur mes deux jambes. Il est plaisant, sous ses talons, de voir la terre qui s'allonge et pétrir la chair du monde. Mais n'y pensons pas trop. Je recommencerai. Il se moque de moi. Hé, je suis un Gaulois. Je suis un fils de ceux qui pillaient l'univers. Que diable as-tu pillé ? Me dit-on en riant. Et qu'as-tu rapporté ? Autant qu'eux, plein mes yeux. Les poches vides, c'est vrai, mais la tête gavée. Dieu, que c'est bon de voir, d'entendre, de goûter, de se remémorer. Tout voir et tout savoir, on ne peut pas, je sais bien, mais tout ce qu'on peut, au moins. Je suis comme une éponge qui tète l'océan. Ou bien plutôt, je suis une grappe ventrue, mûre, pleine à crever du beau jus de la terre. Quel vendange on ferait si on l'allait presser. Pas si bête, mes fils, c'est moi qui la boirais, car vous la dédaignez, eh bien tant mieux pour moi. Je n'insisterai pas. Autrefois, j'ai voulu partager avec vous les miettes du bonheur que j'avais ramassé, tous mes beaux souvenirs des pays de lumière. Mais les gens de chez nous ne sont pas curieux, sinon de ce que fait le voisin, et surtout la voisine. Le reste est trop loin pour y croire. Si tu veux, vas-y voir. Ici, j'en vois autant. Trou arrière, trou avant, ceux qui viennent de Rome valent pis que devant. Fort bien, je laisse dire, et ne force personne. Puisque vous m'en voulez, je garde ce que j'ai vu, sous mes paupières, au fond des yeux. Il ne faut pas vouloir rendre les gens heureux, malgré eux. Il vaut bien mieux l'être avec eux, à leur façon, puis à la sienne. Un bonheur vaut moins que deux. C'est pourquoi, tout en dessinant, sans qu'il s'en doute, les naseaux de Delavaux, et le curé qui bat des ailes en parlant, j'écoute et chante leurs couplets que je connais. Quel orgueil! Quelle joie d'être Clamecy-soi ! Et pardieu, je le pense, c'est une bonne ville, une ville qui m'a fait ne peut être mauvaise. La plante humaine y pousse à l'aise, grassement, sans piquant, point méchante, tout au plus de la langue que nous avons bien affilée. Mais pour médire un peu du prochain, qui riposte, il n'en va pas plus mal. On ne l'aime que mieux, et on ne lui ferait tort d'un seul de ses cheveux. De Lavaux nous rappelle, et nous en sommes fiers tous, même le curé, la tranquille ironie de notre Nivernois au milieu des folies du reste du pays, notre échevin Ragon refusant de s'unir aux Guisards, aux Ligueurs, aux Hérétiques, aux Catholiques, Rome ou Genève, chiens enragés ou loups cerviers, et Saint-Barthélemy venant laver chez nous ses mains ensanglantées. Autour de notre duc, tous serrés, nous formions un îlot de bon sens où se brisaient les flots. Le défunt duc Louis et feu le roi Henri, on ne peut en parler sans en être attendri. Comme nous nous aimions. Ils étaient faits pour nous, nous étions faits pour eux. Ils avaient leurs défauts, certes, tout comme nous, mais ces défauts étaient humains et les faisaient plus proches, moins lointains. On disait en riant « Nevers est encore vert » ou « L'année sera bonne, nous ne manquerons pas d'enfants, le vert galant nous en fit un encore. » Nous avons mangé notre pain blanc d'abord. Aussi, nous aimons tous à parler de ces temps. De Lavaux a connu le duc Louis comme moi, mais seul j'ai vu le roi Henri, et j'en profite, car devant qu'il m'en prie, je leur fais le récit, pour la 100e fois. C'est toujours la première pour moi, pour eux aussi, j'espère, s'ils sont de bons François. Comment je le vis, le roi gris, en chapeau gris, en habit gris, par les troupes à ses coudes, à cheval sur un cheval gris, le poil gris et les yeux gris, tout gris dehors, dedans, tout or. Par malheur, le premier clerc de mon notaire m'interrompt pour l'avertir qu'un client meurt et le demande. Il doit partir, bien à regret, non pas avant de nous avoir gratifié d'une histoire qu'il préparait depuis une heure. Je le voyais qui sur sa langue la retournait, mais moi d'abord plaçais la mienne. Soyons justes, elle était bonne, j'ai bien ri. Pour vous conter la gaudriole, le De Lavaux est sans égal. Après que nous fûmes ainsi remis de nos émotions, détendus et lavés du gosier au talon, nous sortîmes ensemble. Il devait être alors 5h15, ou 5h à peine, en 3 petites heures. J'avais récolté, avec 2 bons dîners et 2 gais souvenirs, une commande du notaire pour 2 bahuts qu'il me fait faire. La compagnie se sépara après avoir pris un biscuit trempé dans 2 doigts de cassis chez Ratterie l'apothicaire. De Lavaux acheva d'y conter son histoire et nous accompagna pour en entendre une autre jusqu'à la Mirandole, où nous nous séparâmes définitivement après avoir fait halte, le ventre au mur, pour épancher nos dernières effusions. Comme il était trop tard et trop tôt pour rentrer, je descendis vers Bethléem avec un marchand de charbon qui suivait sa charrette en sonnant du clairon. Près de la tour Lourdeau, je croisai un charron qui courait en chassant devant lui une roue, et quand il la voyait ralentir, il sautait, lui décochant un coup, tel un qui court après la roue de la fortune. Et quand il va monter dessus, elle s'enfuit. Et je notai l'image afin de m'en servir. Cependant, j'étais hésitant si je devais reprendre ou non, pour retourner à la maison, le plus court ou le plus long, lorsque je vis de Panthéor venir une procession, la croix en tête, que tenait, en l'appuyant sur son bedon, comme une lance, un polisson, pas plus haut que ma jambe, et qui tirait la langue à l'autre enfant de cœur en louchant vers le bout de son sacré bâton. Après lui, 4 vieux portaient, qu'un cas, dessous un drap, de leurs mains rouges et gonflées, un endormi qui s'en allait, sous l'aileron de son curé, en terre achever son somme. Par politesse, je fis la conduite jusqu'au logis. C'est plus gai quand on n'est pas seul. J'avoue aussi que je suivais un peu afin d'ouïr la veuve, qui, selon Luce, allait bramant à côté de l'officiant, et racontant la maladie et les remèdes qu'avait pris le défunt, et son agonie, ses vertus, son affection, sa complexion, enfin, sa vie et celle de son épousée. Elle alternait son élégie avec les chansons du curé. Nous suivions intéressés, car je n'ai pas besoin de dire que tout le long, nous récoltions de braves cœurs pour compatir et des oreilles pour ouïr. Enfin, rendu à domicile, à l'auberge du Bon Sommeil, on le posa dans son cercueil, au bord de la fosse bâillante. Et comme un gueux n'a pas le droit d'emporter sa chemise de bois, on dort aussi bien tout nu. Après avoir levé le drap et le couvercle de la boîte, on le vida au fond du trou. Quand j'eus jeté dessus une pelletée de terre afin de lui border son lit et fait le signe de la croix pour écarter les mauvais rêves, je m'en allai bien satisfait. J'avais tout vu, tout entendu, pris part aux joies, pris part aux peines. Mon bissac était rempli. Pour finir, je m'en revins le long de l'eau. Je comptais prendre au confluent des deux rivières le Beuvron pour retourner à ma maison. Mais la soirée était si belle que me trouvais, sans y penser, hors de la ville, et je suivis Lionne Enjôleuse, qui m'entraîna jusqu'au pertuis de la forêt. L'eau calme et lisse s'enfuyait sans un pli à sa robe claire. On était pris par les prunelles, comme un poisson qui a gobé un hameçon. Tout le ciel était comme moi pris au filet de la rivière. Il s'y baignait avec ses nuages qui s'accrochaient, flottant, aux herbes, aux roseaux. Et le soleil lavait ses crins dorés dans l'eau. Près d'un vieux homme, je m'assis, qui gardait, traînant la quille, deux vaches maigres. Je manquai de sa santé, lui conseillai de se chausser la jambe d'un bas fourré d'ortie piquante. Je fais le mire à mes loisirs. Il me raconta son histoire, ses maux, ses deuils, avec gaieté. Parut vexé que je le cruse de 5 ou 6 ans moins âgé. Il en avait 75. Il y mettait sa vanité. Il était fier d'avoir été celui qui, ayant plus vécu, avait plus enduré. Il trouvait naturel qu'on endurât, que les meilleurs pâtissent avec les méchants, puisqu'en revanche, les faveurs du ciel se répandent sans distinguer sur les méchants et les meilleurs. Au bout du compte, ainsi tout est égal, c'est bien, riches et pauvres, beaux et laids, tous un jour dormiront en paix dans les bras du même père. Et ses pensées, sa voix cassée, comme dans l'herbe les grillons, le bouillonnement de l'écluse, l'odeur de bois et de goudron que le vent apportait du port, l'eau immobile qui fuyait, les beaux reflets, tout s'accordait et se fondait avec la paix de la soirée. Le vieux partit. Je rentrai seul, à petits pas, en regardant les ronds qui tournoyaient dans l'eau et les bras derrière mon dos. Si absorbé par les images qui flottaient sur le Beuvron, que j'oubliais de remarquer où j'allais, où j'étais, si bien que brusquement je tressautais, en m'entendant interpeller, de l'autre bord de la rivière, par une voix trop familière. J'étais, sans m'en être aperçu, revenu devant ma maison. À la fenêtre, ma douce amie, ma femme, me montrait le poing. Je feignis de ne la voir point, les yeux fixés sur le courant. Et cependant, me rigolant, je la voyais se démenant, gesticulant, la tête en bas, dans le miroir de la rivière. Je me taisais, mais en mon ventre, je riais, et mon ventre sous moi roulait. Plus je riais, plus indignée, elle plongeait dans le Beuvron. Et plus elle y piquait la tête, plus je riais. Enfin, de rage, elle claqua porte et fenêtre et sortit comme un ouragan pour me chercher. Oui, mais il lui fallut passer par-dessus l'eau. À gauche, à droite, entre deux ponts nous nous trouvions. Elle choisit la passerelle à droite. Et naturellement, quand je la vis en ce chemin, moi, je pris l'autre et m'en revins par le grand pont, où, seul, Gadin, comme un héron, restait planté, stoïque, depuis le matin. Je me retrouvais au logis. C'était la nuit. Comment diable passent les jours? Je ne suis pas heureusement comme Tite, ce fainéant, ce Romain qui geignait toujours qu'il avait perdu son temps. Je ne perds rien. Je suis content de ma journée. Je l'ai gagnée. Seulement, il m'en faudrait deux. Deux chaque jour. Je n'en ai pas pour mon argent. À peine je commence à boire, mon verre est vide. Il est fêlé. Je connais d'autres gens qui sirotent le leur. Ils n'en finissent point. Est-ce que par hasard, ils ont un plus grand verre? Parbleu, ce serait là injustice criante. Hé, là-haut, l'aubergiste à l'enseigne du soleil, toi qui verses le jour, fais-moi bonne mesure. Mais non, béni sois-tu, mon Dieu, qui m'a donné de m'en aller toujours de table avec la faim et d'aimer tant le jour, la nuit est aussi bonne, que de l'une et de l'autre je n'ai jamais assez. Comme tu fuis, avril, sitôt fini, journée. N'importe, j'ai bien joui de vous. Je vous ai eu et je vous ai tenu. Et j'ai baisé tes seins menus, pucelette maigrelette, fille gracile du printemps. Et maintenant, à toi, bonjour la nuit, je te prends. Chacune à son tour, nous allons coucher ensemble. Ah, sacre bleu, mais entre nous, une autre aussi sera couchée. Ma vieille rentre. Chapitre 5. Belette. Mais depuis 3 mois, j'avais reçu la commande d'un bahut avec un grand dressoir pour le château danois, et j'attendais, pour commencer, d'être allé de mes yeux revoir la maison, la chambre et la place. Car un beau meuble est comme un fruit qu'on doit cueillir à l'espalier. Il ne saurait pousser sans l'arbre. Et tel est l'arbre, tel le fruit. Ne me parlez point d'une beauté qui pourrait être ici ou là et qui s'ajuste à tout milieu, comme une fille à qui la paix le mieux. C'est la Vénus des carrefours. L'art est pour nous quelqu'un de la famille, le génie du foyer, l'ami, le compagnon. Et qui dit mieux que nous ce que tous nous sentons? L'art, c'est notre Dieu l'art. Si tu veux le connaître, il faut connaître sa maison. Le Dieu est fait pour l'homme, et l'œuvre pour le lieu qu'elle achève et remplit. Le beau est ce qui est le plus beau en sa place. J'allais donc voir la place où je pourrais planter mon meuble. Et j'y passai une partie de la journée, y compris le boire et manger. Car l'esprit ne doit point le corps faire oublier. Après que tous deux eurent satisfaction, je repris le chemin par où j'étais venu, et je m'en retournai gaillardement à la maison. Déjà, je me trouvais à la croisée des routes, et bien que je n'eusse aucun doute sur celle que je devais suivre, je louchais sur l'autre chemin que je voyais ruisseler parmi les prairies, entre les haies fleuries. « Qu'il ferait bon, me disais-je, flâner de ce côté. Au diable les grandes routes qui mènent au but tout droit. Le jour est beau et long. N'allons pas, mon ami, plus vite qu'Apollon. Nous arriverons toujours. Notre vieille n'aura point perdu son caquet pour attendre. Dieu, que ce petit prunier à la frimousse blanche est plaisant à regarder. Allons à sa rencontre. Rien que 5 ou 6 pas. Le zéphyr fait voler dans l'air ses petites plumes. On dirait une neige. Que d'oiseaux gazouillants! Oh, quelle délice! et ce ruisseau qui glisse en grommelant sous l'herbe comme un chaton qui joue à chasser une pelote par-dessous un tapis. Suivons-le. Voici un rideau d'arbres qui s'oppose à sa course. Il sera bien attrapé. Ah, le petit matin, par où est-il passé? Ici, ici, dessous les vieilles jambes noueuses, goûteuses et gonflées de cet orme étêté. Voyez-vous l'effronter. Mais où diable ce chemin peut-il bien me mener ?